aujourd'hui le métier d'ergothérapeute. Très pratique et très bon pour le dos. Et ça ne se limite pas au dos, bien loin de là.
Il s'agit d'ergonomie, j'imagine. On va accueillir une ergothérapeute. Ah, c'est celle qui soigne les coques ou... Alors, c'est un métier qui s'applique à quoi exactement ?
Salut et bienvenue à toi dans La Tête à l'envers, émission de podcast portée par le collectif Occupe ton Ergo. Cette émission, elle est faite pour comprendre comment des ergothérapeutes pensent et pratiquent l'ergothérapie en fonction de qui ils sont et d'où ils se trouvent. Des témoignages inspirants permettant de prendre du recul sur ses propres manières de faire. Aujourd'hui, je parle avec Clémence. Nous parlons entre autres d'équilibre occupationnel, que ce soit par rapport aux enfants qu'elle accompagne ou par rapport à elle-même. Parce que nous avons, nous aussi, notre propre équilibre occupationnel. Comme toujours, il y aura une question pour toi à la fin, et on se retrouve ensuite pour mon analyse de cet épisode. Belle écoute à toi! Bonjour Clémence!
Bonjour!
Bah écoute Clémence, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans La Tête à l'envers pour qu'on puisse discuter ensemble aujourd'hui. Pour te présenter rapidement, Clémence, tu es ergothérapeute libérale, tu as fait le master européen d'ergothérapie à Amsterdam, et tu as notamment fait ton mémoire sur les cours de récréation. Donc je pense qu'aujourd'hui on va beaucoup parler des enfants, et parce que c'est aussi les personnes que tu côtoies au quotidien. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi pour toi le cœur de l'ergothérapie? Si tu avais un élément caractéristique, ce serait lequel?
Alors pour moi, le cœur de l'ergo, c'est l'occupation. C'est tout ce qui gravite autour de l'occupation, l'équilibre occupationnel, la justice occupationnelle. Et vraiment, j'ai à cœur dans ma pratique d'explorer toutes les sphères occupationnelles. On aura l'occasion peut-être d'y revenir plus tard. Que ce soit donc dans la terminologie canadienne notamment, que ce soit les soins personnels, que ce soit les loisirs, les activités scolaires ou le travail, mais vu que je travaille avec des enfants, c'est souvent les activités scolaires. Et ce qui m'intéresse vraiment, c'est que l'enfant se sente au clair avec son équilibre occupationnel entre toutes ces sphères-là. Donc, c'est-à-dire qu'on n'aille pas seulement explorer les activités scolaires, mais qu'on aille aussi explorer ses loisirs, les aires de jeu, les cours de récréation notamment. Donc voilà, ouais, vraiment l'équilibre occupationnel et la justice occupationnelle qui me tiennent à cœur dans l'ergothérapie.
Ouais, donc si je résume de manière très synthétique, tu es pleinement dans ce nouveau paradigme de l'ergothérapie en étant centré sur l'enfant dans ta situation et focalisé sur l'occupation.
Exactement. C'est exactement ça.
Et donc c'est intéressant parce que dans les concepts aussi que tu mets en avant, là tu as surtout parlé de justice occupationnelle, d'équilibre occupationnel, pas nécessairement de la performance ou... Pourquoi tu mets le côté de la justice occupationnelle en premier?
Bah, c'est vrai que la performance occupationnelle, je me pose toujours la question de cette différence entre performance, bah, typiquement les performances scolaires, sportives, qu'on a l'habitude d'évoquer, et la performance occupationnelle. Et moi, je travaille avec des enfants et c'est vrai qu'ils font pas la différence, eux, entre performance et satisfaction. C'est vrai que quand ils sont satisfaits, ils sont performants. C'est vrai qu'ils ne font pas vraiment la distinction. Et du coup, c'est un concept. Alors, je l'explore, la performance occupationnelle. Notamment, je leur demande leur rendement, leur satisfaction quand on pose des objectifs. Mais c'est vrai que ce n'est pas le concept qui va ressortir pour moi en premier. Ça va être vraiment la participation occupationnelle, l'équilibre occupationnel, la justice occupationnelle. Et la performance, elle est un peu plus... Et en fait, je trouve que c'est un concept qui est un peu plus subjectif pour le coup. Bah, alors, tout est subjectif, vu que on parle de l'occupationnel, on parle de l'humain. Mais ouais, je vais aller moins parler de ce concept en général.
Ouais, non, mais c'est intéressant aussi la différence entre cette performance occupationnelle et la performance qu'on va avoir dans l'activité sportive. Même si, ça pourrait rester une occupation, mais j'aime bien comment tu l'as dit, le fait que. Par exemple, quand tu vas interroger les enfants, ça va être la satisfaction avant la performance. En tout cas, que la satisfaction est très liée. Enfin non, et pas nécessairement liée à la performance, c'est la satisfaction avant tout. Alors que, quelque part, dans la performance sportive, c'est la performance qui, quelque part, va te donner la satisfaction. Alors peut-être que, justement, les activités sportives sont des occupations particulières qui ont des caractéristiques spécifiques. Et là, comme ça, en réfléchissant, je me dis que l'activité sportive, tu as un feedback immédiat. Enfin, tu sais, il y a une notion de temps, une notion de... chiffrable sur lequel tu peux aller pour te dire si tu as réussi ou tu n'as pas réussi et donc te dire ah bah est-ce que je suis satisfait du coup de cette performance.
Exactement. Et c'est vrai qu'on a pour le coup au quotidien on a beaucoup à apprendre des enfants parce que ils sont vraiment encore dans cette ils s'écoutent eux là où nous parfois on a tendance à à aller voir si on a atteint notre objectif d'un point de vue quantitatif plus. Et eux, ils sont vraiment dans... Enfin, la plupart du temps, après, voilà, chacun a sa personnalité, chaque enfant a sa personnalité. Il y en a qui sont très exigeants envers eux-mêmes et qui auront une satisfaction qui sera régulièrement très basse. Mais en général, ouais, ils s'écoutent vraiment et c'est pas parce qu'ils ont, ils ont 10 sur 10 qu'ils vont être plus satisfaits qu'un 8 sur 10, quoi. Parce qu'ils savent les efforts que ça leur a demandé et qu'ils sont, ils sont tout simplement la plupart du temps fiers d'eux, quoi.
Puis ça montre aussi que peut-être que travailler avec les enfants, justement, ça réoriente peut-être plus les choses sur cette notion de justice et d'équilibre occupationnel, plus que sur cette notion de performance occupationnelle, et peut-être aussi dans un contexte où, par rapport aux enfants, des déséquilibres occupationnels peuvent davantage se mettre en place, parce qu'on va orienter justement beaucoup plus sur les activités scolaires, et du coup, dans quelle mesure on tient compte aussi de leurs loisirs, dans quelle mesure aussi on participe en tant que professionnel de santé, si on oriente uniquement sur ces questions-là, au déséquilibre occupationnel des enfants. Donc peut-être que cette notion de déséquilibre occupationnel est une notion très importante à prendre en compte quand on travaille auprès des enfants. Qu'as-tu compris, appris, en pratiquant l'ergothérapie? Si tu avais eu une prise de conscience, ce serait laquelle?
Alors, si je dirais que c'est l'apprentissage des concepts d'un point de vue purement théorique, et après dans la pratique, mais qui m'ont permis de comprendre, enfin, cet apprentissage m'a permis de comprendre, me comprendre moi en tant que personne occupationnelle et les autres en tant que personne également occupationnelle de manière plus profonde. C'est-à-dire que j'étais dans ma petite vie tranquillement, je vais à l'école d'ergothérapie et j'avais un esprit assez, alors j'ai toujours eu un esprit ouvert, mais je pensais pas que c'était possible qu'il soit encore plus ouvert pour le coup parce que, en fait, j'ai découvert les concepts de justice occupationnelle notamment et du coup, ça m'a permis de m'ouvrir à d'autres, de nouveaux horizons. Et par exemple, pendant mon master, j'ai une amie maintenant qui a fait ce master-là et qui travaille au Kenya. Et on a pu faire un travail sur tout ce qui était les personnes qui sont réfugiées. Et en fait, pour moi, l'ergothérapie avant, c'était pas ça et j'étais pas dans tout ça en fait. J'étais en France, j'ai jamais vraiment voyagé, donc c'est vrai que j'étais fermée là-dessus. Et pareil, je me suis pas non plus ouverte à l'ergothérapie auprès des personnes sans domicile fixe ou l'ergothérapie auprès de... Et je connaissais pas tout ça. Et c'est vrai que l'exploration des concepts m'a permis de, en pratique, m'ouvrir, aller voir ailleurs. Et pareil, d'explorer le concept d'équilibre occupationnel m'a permis de, moi, prendre du recul sur ma vie personnelle et qui après, du coup, a eu un impact sur ma vie professionnelle, de me dire, là, actuellement, j'ai l'équilibre occupationnel, j'en ai pas. Et ça a été de travailler autour de... Enfin, travailler dans ma vie personnelle, en fait, pour avoir un équilibre occupationnel et pour voir les stratégies que j'avais mises en place. Et ouais, j'ai trouvé ça intéressant de voir à quel point la vie personnelle et la vie professionnelle peuvent être... imbriqué et comment l'un influence l'autre de manière positive ou négative. Et ouais, voilà. Concrètement, il y a plein de choses là.
si je résume, tu es partie de cette théorie de justement de cette approche occupationnelle, des sciences de l'occupation, de tous les concepts qui sont liés aux sciences de l'occupation, et tu as essayé justement de les comprendre par rapport à ta pratique aujourd'hui, mais surtout par rapport à qui tu étais et du coup qui tu étais en tant qu'être occupationnel. Je trouve que ça, c'est déjà un premier point. Et du coup, ça pose la question également de comment est-ce qu'on peut utiliser nos propres outils pour notre propre vie? Parce qu'en fait, on le fait pour la vie des autres, pour les accompagner. Et c'est toujours un peu les cordonniers les plus mal chaussés. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut le faire aussi pour nous-mêmes et notre propre équilibre occupationnel, comment il est? Donc ça, c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est plutôt là ce que tu nous amènes, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture dans le sens où justement peut-être qu'avec notre système un peu français et notre histoire, hein, ce qui est tout à fait normal et logique, on s'est implanté en tant qu'ergothérapeute dans des systèmes plutôt biomédicaux en lien avec les pathologies. On est arrivé par cette entrée-là. Et le fait de comprendre les sciences de l'occupation et les concepts qui vont avec, ça permet aussi d'ouvrir son regard pour aller sur des visions plus peut-être sociales des choses, d'aller sur des populations aussi différentes, d'aller sur des niveaux différents, parce qu'il y a ce niveau individuel, mais il peut y avoir aussi un niveau institutionnel, un niveau populationnel, et qui sont peu développés aujourd'hui, enfin, en tout cas qui se développent de plus en plus aujourd'hui. On parle beaucoup plus de l'approche communautaire qu'il y a 5-6 ans. Donc c'est vraiment cette ouverture d'esprit que ça a pu créer en toi, quoi.
Exactement. Et c'est vrai que le fait... Alors, je sais... On m'a toujours dit, prends du recul par rapport à ta vie personnelle. Et c'est vrai que oui, je le fais de plus en plus, mais au départ, c'est le fait d'impliquer ces concepts très théoriques dans ma vie personnelle, de les comparer et de faire par rapport à ma propre situation, parce que c'est celle que je connais le mieux, qui m'a permis de me forger mon identité professionnelle, en fait, et qui m'a permis de comprendre ces concepts. Parce que je les reliais tout le temps à une expérience vécue et du coup, ça m'a beaucoup aidée. Et c'est vrai que tu parles de l'approche communautaire et c'est une approche que je trouve très intéressante pour explorer tout un tas de concepts. Donc oui, c'est vraiment ça que j'ai appris et compris. C'est que aussi que la vie personnelle et la vie professionnelle peuvent être alliées et qu'on apprend tout autant de l'une et de l'autre.
Donc tu dirais aussi que c'est parfois on peut avoir aussi un certain flou par rapport à tous ces concepts. C'est justement de la théorie, parfois c'est un peu complexe aussi. Et puis bon, voilà, on sait qu'en ergothérapie, il y a parfois des définitions différentes en fonction d'une vision, ça peut légèrement différer d'un concept à un autre. Donc est-ce que le fait de passer par soi, justement, ça permet de faire ce lien entre la théorie et la pratique et du coup de mieux comprendre ces différents concepts-là?
En tous les cas, moi, ça m'a aidé. Après, c'est vrai que chacun est différent, mais pour le coup, d'un point de vue personnel, je vis toutes mes expériences à 100%. Et du coup, j'ai toujours des expériences clés dans ma tête et que je relis du coup au concept et qui m'aident à les retenir. J'ai aussi une mémoire visuelle, donc il y a forcément des trucs qui me sautent aux yeux et que je relis aussi. Mais après, ça dépend, je pense, de chacun. Il y a des personnes qui vont plutôt retenir les concepts à partir d'expériences qu'ils ont vécues au travers des autres. C'est très personnel, mais c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup aidé, en tous les cas, pendant mon DE et mon master.
Ensuite, comment j'applique ces différents concepts à ma vie personnelle? Comment j'utilise mes propres les outils que je peux avoir professionnellement pour ma propre vie? Est-ce que ça t'est déjà arrivé justement d'utiliser des outils un petit peu ergo pour
oui.
Pour toi, même des modèles, je sais pas, un MOH ou des choses comme ça pour ta propre vie?
Oui, bah typiquement toutes les choses, le rétroplanning, les emplois du temps, les agendas, tout ça pour l'organisation, c'est hyper important, d'autant plus que je faisais le master et j'étais en libéral à côté, donc si j'avais pas un emploi du temps carré, entre guillemets, avec la possibilité toutefois d'avoir une certaine souplesse, parce que parfois j'avais un bilan qui se calait un jour où j'étais pour le master, mais oui, c'est vrai que sur tout l'aspect organisationnel, tout l'aspect gestion du temps, tout ça, ça m'a... Oui, c'est des ouais, que j'utilise beaucoup. Et je me fais souvent un kawa.
Ok.
Alors, pas toute seule, je le fais en binôme avec mon compagnon. Mais c'est vrai qu'on fait ça sur nos forces, nos faiblesses, les obstacles, les ressources. On fait ça souvent. je dirais 3 fois par an, quoi, à peu près.
D'accord. Donc, trois fois par an, vous faites chacun votre kawa et... D'accord, pour voir un
notre
petit
synthèse.
Peu la synthèse, le petit bilan de où est-ce qu'on en est aujourd'hui.
Exactement, oui.
Ok, trop bien. Et justement, comment on garde son équilibre occupationnel quand on fait à la fois le master européen et qu'on est en même temps ergothérapeute libéral?
Et bien là, pour le coup, c'était vraiment trouver des espaces pour me libérer du temps de manière très stricte, du temps pour moi, c'est-à-dire pour aller faire du sport. Alors, lire un bouquin, j'ai jamais réussi, malheureusement, à le faire, mais voilà, j'avais des espaces, et puis être très organisée, pour le coup, j'avais vraiment, je me faisais des to-do list sans arrêt, et voilà, et après, j'ai envie de dire que souvent, dans ma pratique, ça m'aidait pour le master, et le master m'aidait dans ma pratique, donc en fait, j'étais toujours un peu dans l'un et dans l'autre. Ce qui n'aide pas pour l'équilibre occupationnel, c'était ça la question, mais ça n'aide pas parce qu'en fait, j'ai toujours le cerveau aux deux endroits. Mais d'un point de vue richesse d'informations, c'est parfait. Donc voilà, moi, j'avais 2 jours dédiés au master. Les 3 autres jours, j'étais au cabinet, sachant que dans mes 2 jours de master, j'avais parfois les rédactions de bilan, l'administratif que j'avais pas le temps de faire dans la semaine. Mais j'avais vraiment des jours dédiés à la recherche. Et du coup, j'ai gardé ça. Donc, j'ai fini le master. Là, je devrais être diplômée bientôt, normalement. J'ai gardé ça. Je garde mon lundi pour la recherche, pour des projets de recherche que je vais mettre en place. Et je travaille, du coup, maintenant 4 jours par semaine au cabinet. Si je sens que le lundi, je ne suis pas prête à travailler sur le master, je ne le fais pas, je me garde ce jour de repos parce que je sais que ce sera un samedi ou un dimanche que j'utiliserai pour ce temps recherche et ça me va tout à fait.
Tu as la possibilité aussi de...
La flexibilité.
Ouais, voilà, c'est ça, de la flexibilité, de pouvoir switcher aussi des éléments en fonction de comment tu te sens à l'instant T aussi, te dire, bah non, là, mon niveau d'énergie, mon niveau de fatigue, il est comme ci, mon envie, ma motivation, elle est comme ça. Donc là, non, je préfère faire une activité de ressourcement qui va me faire du bien pour préserver mon équilibre et ça me redonnera de l'énergie pour le jour d'après pouvoir faire ces éléments de recherche.
C'est ça, exactement. Et j'ai la chance d'avoir cette flexibilité-là, hein, grâce au libéral. Mais voilà, c'est vrai que ça m'aide beaucoup et j'apprends davantage à m'écouter.
Ouais, c'est ça aussi, c'est ce que ça demande de pouvoir s'écouter. Et donc de se connaître et de se comprendre.
Exactement.
Aujourd'hui, c'est quoi ta manière personnelle de pratiquer? Si tu avais une manière de faire clé, ce serait laquelle?
Cette clé, pour moi, c'est la collaboration. La collaboration avec l'enfant, la collaboration avec ses parents, avec ses professeurs ou son enseignant. C'est ce que je dis souvent, je dis que moi, je suis professionnelle de l'ergothérapie, mais l'enfant, il est professionnel de sa routine, de ses occupations. Le parent, il est professionnel de son enfant, forcément, il le connaît, c'est lui qui le connaît le mieux après l'enfant. Et puis les professeurs sont professionnels de l'éducation, de sa performance scolaire, de sa participation scolaire. Et c'est vrai que j'essaye toujours de les impliquer au maximum dans l'accompagnement, qu'ils fassent pleinement partie de l'accompagnement. Et en fait, ça marche plutôt bien. Alors même si, effectivement, il y a des réactions parfois un peu de surprise ou ils sont un petit peu frileux parce que ça les change. C'est pas la manière de fonctionner qui est la plus utilisée par les professionnels de santé, quoique ça commence vraiment à se développer. Mais du coup, il y a des réactions de... je sais pas, ou alors ils se demandent parfois, je pense, si c'est eux le professionnel ou si c'est moi. Ça implique aussi d'avoir une... Enfin, c'est la posture, en fait. C'est-à-dire que je suis pas le professionnel de santé sachant qui va aller enseigner des choses. Ça va être, on va réfléchir ensemble à des stratégies pour que l'accompagnement se passe bien et pour que l'enfant augmente, enfin, pour que la participation de l'enfant et la satisfaction de l'enfant augmentent le maximum. Et voilà, ça implique que j'appelle beaucoup les enseignants, que j'envoie beaucoup de mails aux parents pour typiquement ramener le matériel pour la prochaine séance. Parce que voilà, on va aller explorer à la prochaine séance, mettre son casque de vélo ou alors faire 10 sauts de corde à sauter. Voilà, et du coup, ça va être... Je vais leur envoyer régulièrement des mails. Et donc, il y en a parfois, ils perdent les mails et ils ne savent plus. Et je leur envoie trop de mails. Mais c'est vrai que je trouve ça important de garder le contact et d'être au maximum... au maximum en collaboration. Je leur demande souvent s'ils sentent un changement dans le quotidien, dans la routine occupationnelle de leur enfant. Est-ce que les stratégies mises en place, elles fonctionnent? Donc ça, avec les parents. Et puis avec les professeurs, c'est pareil. J'essaie vraiment de... Donc on communique soit par téléphone, soit par mail, soit quand je vais directement à l'école. Mais c'est vrai que je demande régulièrement si les aménagements pédagogiques sont adaptés, s'ils sont possibles à mettre en place. Si l'enfant s'en saisit, parce que parfois il y a des aménagements où en fait on se rend compte qu'on les a mis en place mais c'était peut-être pas nécessaire ou alors que c'était pas le plus adapté, donc dans ce cas-là on réadapte. Mais c'est toujours cette réévaluation en collaboration avec les parents, le professionnel de l'éducation et l'enfant. Et l'enfant il sait très bien nous le dire quand ça va ou ça va pas, il n'y a même pas besoin de lui demander souvent. Donc c'est plus facile. Mais voilà, ça sort un petit peu tout le monde de sa zone de confort et ça implique d'avoir une attitude plus proche de l'éducation thérapeutique et c'est hyper intéressant.
J'aime bien ce terme de ça sort un petit peu de sa zone de confort, mais enfin, ça m'interroge sur pourquoi est-ce que ça sort un peu les gens de leur zone de confort. Et en même temps, tu l'as dit, peut-être parce que c'est pas encore l'approche dominante aujourd'hui dans le milieu, dans notre système de santé, mais que effectivement, je te rejoins, ça se développe de plus en plus. Et nous, en tant qu'ergothérapeute, on est centré sur la personne. Donc, quelque part, la collaboration, de facto, elle arrive. Et puis, si on parle des occupations des enfants, là, dans ta situation, les occupations sont forcément différentes à chaque fois, sont dans des environnements différents. Les parents sont différents, l'environnement social est différent. Donc, il faut pouvoir tenir compte de tout ça. Donc, il faut être centré sur l'enfant qu'on a en face de nous. Un accompagnement ne fait pas l'autre quand on est focalisé sur l'occupation. Alors, ça, tu sais, ça me fait venir le concept un peu d'impuissance apprise. Est-ce que dans nos systèmes de santé aujourd'hui, on n'est pas en train de créer une forme d'impuissance apprise où après, les parents arrivent et c'est comme s'ils n'avaient un peu pas rien à dire, parce que c'est pas exactement ça non plus, mais en tout cas qu'on les mettait un petit peu en retrait, qu'ils n'étaient pas pleinement dans l'accompagnement, alors, comme tu le dis, qu'ils ont plein de choses à dire, parce qu'ils sont experts aussi de la situation dans une certaine mesure.
Ils sont totalement experts de leur enfant et moi je leur dis bien dès le bilan, dès le tout début de l'accompagnement, que moi sans eux, sans l'implication de l'enfant, la motivation de l'enfant, et voire parfois quand c'est vraiment les difficultés sont vraiment centrées autour de l'école, des activités scolaires, moi je leur dis sans vous je peux rien faire. C'est-à-dire que si la collaboration elle n'est pas effective, si on travaille pas main dans la main, bah votre enfant il progressera pas aussi vite. C'est pas avec une séance d'ergothérapie par semaine qu'on va changer le monde. Et ça, c'est très important qu'ils le comprennent. Et d'où l'intérêt aussi de l'approche coop. Et l'approche coop, elle implique aussi, elle implique les parents, parce que c'est une approche où il faut tester à la maison et on réévalue en séance d'ergothérapie, on réadapte. Et c'est vrai qu'on le dit souvent pour cette approche, mais en fait c'est pour tout quoi. Si on travaille pas main dans la main, effectivement il se passe pas grand-chose pour l'enfant et c'est bien dommage. Le travail main dans la main est souvent effectif.
Ça nécessite quelque part de se mettre sur les bons rails dès le début pour justement bien orienter les choses et que le parent puisse savoir, ou les autres professionnels aussi autour, puissent savoir quel rôle ils jouent dès le départ dans l'accompagnement et qu'ils en font directement partie. Et du coup, de se mettre directement sur ces bons rails-là. J'ai l'impression que ça implique aussi des choses différentes dans l'accompagnement par la suite, parce que comme tu le dis, tu fais pas tous tes accompagnements au cabinet nécessairement. Tu peux aller aussi à l'école, tu peux aller à la maison, tu peux aller dans le quartier de l'enfant. Je trouve que ça modifie aussi la manière dont on accompagne d'un point de vue physique, où est-ce que je me trouve et où est-ce que je vais.
Exactement. Et aussi, je réadapte en fonction des objectifs actuels. C'est-à-dire qu'au début, par exemple, il y a une jeune que je suivais à l'école, parce que c'est les objectifs qui avaient été fixés lors du bilan initial étaient très tournés autour des activités scolaires. Et quand j'ai réévalué donc les activités scolaires, voilà, ça se passait bien, les aménagements pédagogiques étaient en place, on avait travaillé sur plein de petites choses du type découpage, collage, etc. S'installer correctement à son bureau, c'est-à-dire qu'elle soit à l'aise, donc on avait mis en place une Swiss ball, etc. Et quand, du coup, ça avait été réévalué, ça fonctionnait. On était passé sur des objectifs plus vie quotidienne. Donc là, j'avais changé de lieu parce que effectivement, ça fait beaucoup plus sens d'aller à domicile quand on travaille sur des choses du type se brosser les dents ou mettre ses chaussettes. Alors, ça implique d'être flexible, effectivement, et de s'organiser dans son emploi du temps. Mais pour moi, c'est indispensable pour que l'accompagnement il soit le plus efficace possible. Et après, bon, bien sûr, quand on a des objectifs vie cote et vie scolaire, on choisit un petit peu le lieu qui est le plus évident pour nous, en libéral, mais au plus, j'essaie d'être dans l'environnement écologique de l'enfant. On travaille sur des occupations très précises.
Et puis cet aspect de la collaboration, d'être centré sur l'enfant, c'est aussi de re-questionner quels sont les objectifs de cet enfant-là, parce qu'effectivement, il y a souvent cette orientation vers l'ergothérapeute libéral par rapport à des occupations scolaires, mais l'enfant, est-ce que c'est ça qui est primordial pour lui à ce moment-là? Comment tu gères un peu ça?
Il m'est arrivé de ne pas du tout prendre en compte les objectifs des parents.
Ouais.
Parce que on était aux antipodes de ce que voulait l'enfant. C'est-à-dire que, alors, c'était un enfant qui avait un syndrome génétique. Il y avait plein de difficultés, donc au niveau cognitif, moteur, visio-spatial, enfin, il y avait plein de difficultés différentes qui impactaient son quotidien. Et lui, il n'était pas en capacité, en fait, il n'était pas en capacité de se brosser les dents tout seul. Enfin, on ne lui laissait pas se brosser les dents tout seul, par exemple, et il ne supportait pas que ses parents le fassent. Donc, en fait, du coup, cet enfant, la plupart du temps, ne se brossait pas les dents. Et les parents, eux, pour eux, ils voulaient qu'ils puissent lire et écrire. Enfin, voilà, on était sur que du scolaire. Et quand je suis allée à domicile, en fait, je me suis rendu compte que cet enfant pouvait se brosser les dents. Il peut le faire. C'est juste qu'on ne le laisse pas faire parce qu'on a peur que ce soit mal fait. Et c'est vrai que lui, son objectif, c'était d'être autonome à la maison. Donc, il a su me dire ça à la quatrième séance, quand j'avais commencé avec les objectifs des parents, parce que lui n'avait pas d'idée d'objectif à la base. Et au final, j'ai complètement arrêté, parce que je me rendais compte qu'il y avait des choses bien plus prioritaires pour lui et que les choses qu'on faisait avant ne l'intéressaient pas. Donc, surtout pour les premières séances, pour moi, la relation thérapeutique, elle est hyper importante. Et si je commence avec des choses qui le freinent, entre guillemets, qui ne le motivent pas, on va droit dans le mur. Donc voilà, je suis repartie, j'ai refait un OTIOP. J'avais fait l'OTIOP avec le parent et l'enfant pendant le bilan initial, là, j'ai fait que avec l'enfant. Il y avait l'AESH qui était là pour l'aider, pas pour l'aider à placer les cartes notamment, parce que c'était voilà, mais pas dans la réflexion, c'est l'enfant qui réfléchissait tout seul. Et voilà, j'avais des questions de relance, etc., mais on est arrivé sur des choses de la vie quotidienne et pas du tout du scolaire pour le moment.
Donc de bien mettre en avant et ce lien de confiance qui t'a permis aussi de pouvoir mettre en avant différents objectifs. Et là, dans cette situation, les objectifs spécifiques de cet enfant-là, qui s'est, avec cette relation de confiance, qui s'est trouvé le droit, la permission de pouvoir amener ça auprès de toi.
Exactement. Et après, bien sûr, après j'ai repris les objectifs des parents et j'ai renégocié avec l'enfant des objectifs, mais des objectifs... il y en a par exemple, il y en a deux, c'était hors de question pour lui dès le début. Donc on a voilà, on est resté sur, on faisait 5 objectifs par 5 objectifs pour varier les séances, parce que c'était un enfant qui avait aussi beaucoup de troubles de l'attention. Mais du coup, en fait, ces objectifs-là, j'ai pu les faire 6 mois après le début de l'accompagnement ou 8 mois. Mais une fois que la relation de confiance était installée et qu'on pouvait aller sur des choses qui le mettaient davantage en difficulté, en fait. Donc voilà.
Ah ouais, donc cette collaboration, elle amène aussi le respect du rythme de l'enfant et pas de se dire bah si on le fait pas tout de suite on n'y arrivera jamais, c'est plutôt de se dire bah c'est peut-être pas le bon moment là maintenant tout de suite, mais si on met cette relation de confiance et qu'on commence à faire des objectifs que cet enfant il a envie de faire et pour lequel il a une motivation, et bah ça amènera peut-être, ça débouchera sur d'autres objectifs derrière et on reviendra sur ces aspects-là.
Et c'est ce qui s'est passé. Donc oui, c'est vrai que c'est le rythme de l'enfant est hyper important. Et j'ai aussi ce discours avec les professeurs, les enseignants. De plus en plus, ils respectent le rythme de l'enfant. Et c'est vrai que c'est une discussion qu'on a souvent quand je fais les observations en classe. Parce que j'en fais une par an avec chaque enfant. J'essaie de le faire en début d'année pour connaître comment fonctionne la classe. Et on a cette discussion sur le rythme de l'enfant qui est hyper important à respecter et qui sans ça on n'avance pas en fait. Et même si effectivement c'est difficile parce qu'ils sont 30 par classe et qu'on peut pas forcément respecter le rythme de chacun, mais au plus possible on essaie de mettre en place des choses pour que ça fonctionne.
Et alors on a déjà un petit peu parlé de situations concrètes, d'histoires un petit peu marquantes justement, est-ce que tu en as d'autres un petit peu à nous partager?
Ouais. Sur tout cet aspect collaboration, donc je parlais justement des observations en classe, je peux peut-être aller un petit peu plus loin là-dessus. J'ai fait une observation en classe la semaine dernière, justement, et c'était un fonctionnement, j'en ai fait plein des observations en classe, mais c'était un fonctionnement assez particulier, et assez, en fait j'ai été très surprise. Je savais que c'était un petit peu type Montessori, mais quand je suis arrivée dans la classe, je me suis dit que si toutes les classes fonctionnaient comme ça, et ben ça aiderait pas mal d'enfants. En fait, il y avait plein de petits coins différents, c'était une classe de CM1, CM2. Un coin jeu, chill, repos, un coin avec des bannettes en fonction des niveaux des enfants, donc des ceintures, ceinture jaune, ceinture rouge, ceinture noire, etc. Les tables étaient mobiles, c'est-à-dire que les enfants, ils s'installaient pas à une place, ils n'avaient pas leur place dans la classe, ils s'installaient où ils voulaient et ils pouvaient déplacer les tables, se mettre en binôme, en trinôme, en table de quatre, tout seul s'ils voulaient aussi. Il y avait des Swiss balls, il y avait des coussins à picots, et en fait, chaque enfant choisissait son mode de fonctionnement. Ils se déplaçaient pour aller remettre leur travail. Ils étaient vraiment autonomes, en fait, dans la classe. Et en fait, en discutant avec l'enseignante, en fait, toute l'école fonctionne comme ça. Et elle est allée dans d'autres écoles, donc elle travaillait dans d'autres écoles qui fonctionnaient pas spécialement comme ça. Et elle me disait que c'est en échangeant aussi avec les professionnels de santé qu'elle s'est rendue compte que cette approche, elle permettait de justement respecter le rythme de l'enfant et de permettre aux enfants de développer leur autonomie. Parce que c'est eux qui choisissaient où ils se mettaient, c'est eux qui allaient rendre leur travail, c'est eux qui choisissaient le niveau qu'ils souhaitaient atteindre dans les activités, et donc ils choisissaient la ceinture en fonction. Donc voilà, pour une première expérience. Toutes les observations en classe ne se déroulent pas comme ça. Mais c'est vrai qu'avec cette enseignante, on a la possibilité de mettre en place plein d'aménagements pédagogiques parce que c'est flexible, c'est très flexible. Et du coup, l'enfant, c'est vraiment bénéfique pour sa participation, pour l'enfant que je suis dans cette classe. J'ai une autre expérience sur ce que la recherche m'a apporté aussi dans ma pratique, parce que du coup j'ai fait le master en sciences de l'ergot. Et en fait, l'approche de méthode de recherche du type entretien, elle va vraiment m'aider à avoir une posture plus de questionnement plutôt que d'enseignement. Quand j'ai une idée en tête, quand j'ai une stratégie en tête, je ne vais pas tout de suite imposer cette stratégie, je vais dire « qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie ?» Qu'est-ce qu'elle pourrait apporter au quotidien? Voilà, c'est vraiment ça, poser des questions ouvertes. Et du coup, ça implique d'impliquer les parents, forcément. Puisque c'est eux que je vais aller questionner. Et puis, c'est l'enfant que je vais aller questionner aussi, par l'intermédiaire de cette posture de questionnement. Et j'ai eu une expérience aussi qui montre à quel point la collaboration avec l'enfant est importante. J'avais fait, donc pendant pour mon master, des entretiens, des visites guidées de la cour de récréation. Et j'avais fait une visite guidée avec un enfant donc, qui avait un TSA. Il était en CP. Il avait énormément de choses à dire. Donc, il m'a raconté plein de choses pendant 45 minutes, une heure. Et puis, au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah voilà, on va s'arrêter là, c'est fini. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Et là, il me dit, bah, c'est quand que tu reviens? Parce que moi, j'aimerais bien. En fait, j'ai plein d'autres choses à te dire. Mais là, je sens que j'ai besoin de réfléchir parce que j'ai pas eu le temps d'assez réfléchir. Mais si tu reviens, j'aurai d'autres idées et je pourrais te dire d'autres. Et du coup, donc je lui ai expliqué que c'était une fois et que je reviendrai pas pour discuter de ça avec lui. Mais que s'il avait d'autres choses à dire, il pouvait en parler à ses parents ou son enseignante qui pouvait me transmettre l'information. Et ça montre à quel point les enfants, on peut collaborer avec eux. Ils ont des choses à dire. Donc, la collaboration dans la recherche, la collaboration dans la pratique, c'est intimement lié. Et c'est vrai que quand je suis allée en classe avec cet enfant, j'ai pu voir que, en fait, c'était le fonctionnement de la classe était vraiment sur l'aspect enseignant-apprenant. C'est-à-dire que l'enseignant enseigne à l'enfant et l'enfant apprend. Il n'y avait pas vraiment cet échange de on apprend chacun l'un de l'autre. Après voilà, chaque fonctionnement de classe est différent et en fait chaque enseignant est différent aussi et fait en fonction de sa personnalité et de la classe qu'il a en face. Mais voilà, ça pose des questions et c'était intéressant de voir ça.
Ok. Ouais, ce que je retiens, c'est j'aime bien cette phrase, hein, que les enfants ont des choses à nous dire, mais qu'il faut qu'on puisse entendre, il faut qu'on puisse écouter ce qu'ils ont à nous dire, et pour ça, il faut qu'on ait des environnements qui permettent de le faire, et c'est ce que tu as dit avec un peu cette première situation, où les enfants sont beaucoup plus autonomes, où ils peuvent faire des choix, et du coup, c'est sans doute un environnement physique et social qui leur permet d'être écoutés, avec des postures plus de facilitation et de collaboration. C'est un peu le pendant de l'enseignement, de ce que tu nous disais par rapport nous à notre vision un peu thérapeutique des choses. Et donc ça, c'est hyper intéressant. Et il y a aussi ce côté de, au-delà de l'environnement physique, comment on crée aussi des environnements sociaux qui nous permettent d'amener cette écoute. Et c'est ce que tu dis aussi avec cette partie de questionnement que tu apportes. C'est différent d'apporter des réponses que d'apporter des questions. Et du coup, d'essayer d'apporter des questions pour essayer de comprendre et que quelque part, la stratégie viennent de l'enfant, de ses parents, et d'essayer de l'amener par des questions, c'est totalement différent. Et puis même si nous, on a quelque chose un petit peu en tête en tant que professionnel, c'est aussi de s'ouvrir par ces questions à la possibilité que la stratégie qui soit amenée soit différente. Et en fait, on se dise « Ah, mais oui, et j'avais pas forcément pensé à ça ». Mais en fait, l'enfant et les parents vont penser par rapport à leur situation concrète, à leur contexte, alors que nous, malgré tout, on est extérieur à ce contexte. On n'a pas tous les éléments et c'est impossible de l'avoir. Donc c'est aussi s'ouvrir à la possibilité d'une réponse qui soit différente de ce que nous, on aurait pu apporter.
Exactement. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure, on apprend de chacun, c'est-à-dire que l'enfant nous apprend plein de choses et nous on lui apprend des choses évidemment, et du coup c'est cet aspect réciprocité qui en général facilite la relation de confiance qu'on a avec l'enfant et du coup ouvre la possibilité, mais nous oblige à nous adapter parce que du coup effectivement il y a des choses qui vont sortir et on ne les avait pas du tout en tête et c'est bien. On a cet effet de surprise, on a encore cet effet de surprise et avec chaque enfant on a cet effet de surprise de toute façon qui est hyper intéressant. C'est très inspirant de travailler avec les enfants. Ouais.
Alors, pour terminer, quelle est la question que tu as envie d'offrir aux ergothérapeutes qui nous écoutent? Si tu avais une question inspirante, ce serait laquelle?
On a pu discuter pendant tout ce podcast des différentes sphères occupationnelles et l'importance de chacune d'elles, que ce soit la sphère des loisirs, la sphère des soins personnels, la sphère de la vie scolaire, si on prend la terminologie canadienne. Moi, ma question, ce serait... Comment, en tant qu'ergothérapeute, vous explorez les différentes sphères occupationnelles de la vie de la personne? Donc, parmi celles que je viens de citer et d'autres, s'il y a d'autres qui leur viennent à l'esprit. Et puis, est-ce qu'il y a des déséquilibres entre l'exploration de ces différentes sphères? Ou alors, est-ce qu'ils estiment que toutes les sphères sont explorées au même niveau? Pourquoi est-ce qu'il pourrait y avoir des déséquilibres ou pourquoi non? Leur posture, en fait, vis-à-vis de l'exploration de ces différentes sphères.
Ok, super. Donc comment, de quelle manière aujourd'hui, dans l'endroit où on est, dans notre contexte, on explore ces différentes sphères occupationnelles et quels sont les déséquilibres potentiels qu'il peut y avoir et quelles sont les raisons de ces déséquilibres? Je pense notamment là comme ça à des effets un petit peu institutionnels. C'est vrai qu'en institution, parfois on va interroger notamment la sphère des soins personnels, l'aspect habillage, toilette, cuisine, parce qu'il y a une espèce de priorisation de ces activités-là et on va pas forcément investiguer énormément la sphère des loisirs. Et pourquoi? Et du coup, pourquoi ce déséquilibre existe? Comment c'est orienté? Donc, écoute, merci pour cette question très intéressante.
Et je pense que ça me fait penser à une autre attitude qui pourrait influencer, qui pourrait biaiser effectivement aussi nous, notre exploration au cours du bilan en tant qu'ergo libéral qui travaille avec les enfants. C'est l'attitude des parents. Ils viennent avec une idée, ils viennent avec tout un tas d'informations sur les activités scolaires et les soins personnels. Et c'est vrai que quand on va aller explorer, donc il nous parle de ça pendant tout le bilan, pendant tout le bilan, pendant tout le bilan, pendant tout le bilan. Et au moment où on dit aux enfants, bah, est-ce que qu'est-ce que vous faites à l'extérieur de l'école? C'est quoi vos loisirs? Alors déjà, la plupart du temps, ils savent pas ce que c'est le mot loisir, peu importe l'âge. Et du coup, ils regardent les parents et ils sont là, je sais pas. Et là, nous, en général, on donne des exemples. Parce que c'est vrai que, en tous les cas, moi, ils vont pas systématiquement me dire, bah voilà, j'aime bien construire des cabanes dans les arbres, ou j'aime bien jouer au Lego, ou j'aime bien. C'est pas spontanément. Et pourtant, spontanément, ils vont savoir me dire qu'ils ont du mal à écrire, ils ont du mal à lire, que bah, découper des formes complexes, c'est difficile. Mais spontanément, me dire que bah, peut-être qu'ils vont avoir du mal à empiler les Lego, c'est moins facile pour eux. C'est moins systématique. Donc voilà, c'est laisser la possibilité, ou en tous les cas, questionner toutes les sphères occupationnelles. Pour voir dans lesquelles sont ressources, enfin, dans lesquelles il y a des activités ou des occupations ressources, dans lesquelles il y a des activités potentiellement obstacles, et qu'on puisse en fait aller travailler sur toutes ces sphères, parce qu'il y a parfois des objectifs des sphères, de la sphère des loisirs qui vont aider pour la sphère, de la vie scolaire ou de la vie quotidienne. Donc c'est voilà, tout aussi intéressant.
Ok, donc la mise en avant de cette cartographie occupationnelle, de comment on l'a fait et comment on s'en sert derrière.
C'est ça.
Bah écoute, merci beaucoup Clémence, merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante.
Avec plaisir.
Et puis bah je te dis à très bientôt.
Oui, à très bientôt, merci.
Salut, à bientôt.
Salut.
Après cette discussion, il y a deux grands éléments que je souhaite retenir. Premièrement, nous ne sommes pas extérieurs à nos concepts, ils s'appliquent aussi à nous-mêmes. Deuxièmement, notre contexte oriente notre pratique sans que nous n'en ayons toujours conscience. Alors déjà, en ce qui concerne nos concepts, cette théorie, ces modèles, qui nous paraissent parfois éloignés de la réalité, plutôt que d'essayer de les voir chez les autres, essayons peut-être déjà de les voir chez nous-mêmes. Comment ils s'appliquent à notre quotidien? Où est-ce qu'on peut les trouver, les dénicher? Si on parle d'équilibre occupationnel comme le fait d'avoir la bonne quantité d'occupation et la bonne variation entre les occupations, comment ça prend forme dans notre vie? Tout en sachant que le travail, par exemple, prend souvent un temps important dans notre culture. À titre personnel, j'ai beaucoup d'occupations où je réfléchis, je cogite, je pense. J'ai besoin d'avoir dans ma journée un équilibre en amenant des occupations plus physiques, plus de mouvement. Et pour moi, ça passe par le sport de manière quasiment quotidienne. Une ergothérapeute avec qui j'avais pu discuter avait développé une activité, peut-être un peu moins construite d'un point de vue des objectifs thérapeutiques, avec les personnes qu'elle accompagnait, mais qui était satisfaisante pour ces personnes, et qui lui permettait aussi d'avoir un moment de ressourcement une fois dans sa semaine. Ça, c'est la première chose. Nos concepts vivent dans notre quotidien. Si nous prenons le temps de les chercher chez nous, nous les trouverons d'autant mieux chez les autres. La compréhension de ce qui se passe d'un point de vue occupationnel chez nous peut être le point de jonction, le pont entre ce qui relève de la théorie et ce qui relève de la pratique. Peut-être une manière de combler ce fossé. Ensuite, nos contextes orientent notre pratique. Ce sur quoi nous portons notre attention n'est pas neutre et relève d'un choix plus ou moins conscient et orienté. Il y a une forme de relation de pouvoir entre un enfant et un adulte. Alors pour son bien, évidemment, et ce pouvoir il n'est pas nécessairement mauvais en soi, ou du moins si nous en avons conscience et que nous y faisons attention. Et historiquement, thérapeute peut avoir une forme de pouvoir vis-à-vis du patient. Alors dans ce contexte, y a beaucoup d'éléments pour que nous orientions nos objectifs vers des sphères ayant une valeur pour notre culture, et donc principalement les occupations en lien avec l'école ou la performance scolaire quand il s'agit des enfants. En bref, des éléments valorisés par les adultes. Mais les priorités sont-elles les mêmes pour l'enfant ? Pourquoi bien utiliser une règle est-il plus important que se brosser les dents ou que faire de la corde à sauter? Si on replace ça dans une vie d'adulte, est-ce qu'on aurait envie qu'on ne fasse attention qu'à notre vie professionnelle? Se dire que nos activités de loisirs, c'est pas important, que seul le travail compte. Pourtant, on est souvent très content d'être en week-end, donc c'est que ça compte. Le repas avec des amis, ça compte. La balade en famille, ça compte. L'entraînement d'escalade, ça compte. Il y a donc tout un tas d'activités qui comptent et qui participent à notre équilibre. Qu'est-ce qui fait alors qu'on se focalise sur certaines occupations plutôt que d'autres? Est-ce que c'est le contexte socio-culturel et organisationnel dans lequel on baigne? Ou est-ce que ce sont les intérêts des personnes que nous accompagnons? Je te laisse avec ces questionnements. N'hésite pas à venir en discuter via le compte Instagram et Facebook Occupe ton Ergo, ou de manière plus personnelle via mon compte Facebook Oti Explorer, Instagram Monsieur Pichalac Ergo, ou LinkedIn Vincent Alouin. Belle journée, après-midi, soirée à toi, je te dis à très vite, et d'ici là, prends bien soin des occupations des personnes que tu accompagnes, et des tiennes. Boujou !